semaine dernière, on a vu une prédication là-dessus. On ne pensait pas qu'il allait avoir une épreuve comme ça au sein de l'Église la semaine même. On a parlé de ça même mardi soir, encore ici, hein, par rapport à nos frères de Philippe qui vivaient ces choses-là. Et on avait vu que la bonne chose à faire, c'était de tenir ferme ensemble, de prier ensemble, de combattre ensemble. Et nous sommes heureux de voir comment le Seigneur t'a accompagné aussi dans ce moment-là. Ce matin, on va avoir une prédication qui est une thématique, mais qui est un peu une transition avec ce qu'on a vu un peu la semaine dernière, mais qu'on va surtout voir la semaine prochaine, sans empiéter sur la prédication de la semaine prochaine qui sera dans Philippiens 2. On va voir le thème de la comparaison. Il y a peut-être 10 ou une dizaine d'années, j'avais intitulé ça le cancer de la comparaison, puis j'ai retravaillé un peu cette thématique. Semaine dernière, on discutait à table et on parlait d'un autre mot, peut-être la gangrène de la comparaison. Puis j'ai dit, on va rester avec le mot comparaison et on va intégrer le mot gangrène un peu plus tard dans la prédication. La comparaison, c'est un sujet complexe, qui est large. Je suis conscient que je ne vais pas pouvoir tout traiter ou peut-être vous allez avoir des attentes sur ce sujet-là. Mais on va essayer de voir les grandes lignes de la comparaison et qu'est-ce que Dieu en pense, qu'est-ce que Dieu dit sur ce sujet-là. La comparaison, pour qu'on ait des mots ou une définition assez similaire, la comparaison permet de voir les différences ou ressemblances entre au moins deux personnes, deux animaux, deux choses, deux pensées. Et on pourrait se dire qu'il n'y a rien de nocif dans cette action de comparer. Hein ? Il est vrai que si je dois comparer deux téléphones avant de l'acheter, cela peut paraître même sage. Hein ? Ou même des fois de comparer deux actions, une bonne et une mal, peuvent être également quelque chose de sage. Mais nous allons voir une autre facette de la comparaison et aussi ses conséquences. On vit dans un monde qui nous pousse constamment à la comparaison. Constamment à la comparaison. Le mois de janvier est peut-être le mois de la comparaison. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est le mois où tous les ans, vous avez des magazines qui comparent tout et n'importe quoi par rapport à l'année précédente. Les 100 personnes les plus influentes de la planète, les 100 personnes les plus riches de la planète, les 100 sportifs les mieux payés. Et vous pouvez mettre des listes. Des fois, c'est pas 100, des fois, c'est juste 20 ou 10. Hein. Mais est-ce que vous imaginez qu'en chaque fois que ce magazine paraît, dans le Times ou dans d'autres, toutes les frustrations, les jalousies ou même les autosatisfactions que cela produit. Ah, je suis passé deuxième. Pourquoi il est premier? Pourtant, je suis meilleur que lui. Ou à Hollywood qui produit des milliers de films et séries par an. Quel est le meilleur film de l'année? Meilleur acteur, actrice, meilleur second rôle? Puis la musique, puis la liste. Des fois, je vous ai dit, il y a tellement d'Oscars là. Ou encore les pays qui aiment comparer leurs forces militaires. J'ai appris dernièrement que Donald Trump a mis en place l'année dernière un défilé militaire aux États-Unis, chose qui n'avait pas lieu avant, suite à une rencontre où il est venu voir notre défilé militaire en France, apparemment. Vous voyez, encore une comparaison. Ou surtout, il a vu celui de Poutine, il a dit, ah, il faut faire peut-être un peu mieux que lui. La comparaison. La comparaison, mes amis, elle est là dès notre enfance. On se compare à l'autre, dès notre enfance. Et puis, ensuite, ça va, quand c'est dans la famille, ça va dans la cour de récréation, puis au sport, à l'université, au travail, et puis même les chrétiens dans l'église. Constamment, on vit dans un monde de comparaison. La question qu'on peut se poser ce matin, c'est est-ce que la comparaison peut devenir une gangrène ? Une gangrène, pour faire simple, c'est une destruction des tissus de votre corps. Est-ce que la comparaison affecte nos pensées et nos comportements envers Dieu et les autres ? Et que dit la parole de Dieu à ce sujet ? Vous savez, dans la Bible, la plupart du temps, la comparaison est liée à la jalousie, à la frustration, à l'insatisfaction, à un manque de reconnaissance et à l'orgueil. Et la comparaison, c'est un péché qui est rarement, quand il devient péché, est rarement confessé. Mais que vous allez voir, j'espère qu'on va voir, qui peut être la source de certaines choses. Des fois, on cherche des choses, pourquoi on en arrive là. La comparaison est peut-être des fois la problématique. Mais on n'en parle pas souvent de celui-là. Nous verrons aussi que nous pouvons subir la comparaison, soit par ignorance, soit par méchanceté. Si tu étais comme lui ou comme elle, alors la comparaison fait souffrir, la comparaison détruit. La première question qu'on va se poser ce matin, c'est quand a commencé la comparaison ? Avant la création de l'homme. Regardons un texte dans Ésaïe 14, au verset 10 et 15. J'ai que ce slide pour la comparaison aujourd'hui. Le reste, ça sera des versets de la parole. Bon, je vais le lire ici. Ça concerne le roi de Babylone, mais vous allez voir ensuite pourquoi je vais l'associer aussi à Satan. Tous prennent la parole pour dire, toi aussi, tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est au-dessus dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi une couche de verre et les verres sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Et tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. C'est un texte qui parle premièrement de la chute du roi de Babylone. Il n'y a pas à contester là-dessus. Mais c'est aussi considéré comme une image de la chute de Satan. Beaucoup de théologiens et d'hommes qui aiment l'écriture ont vu un rapprochement avec un enseignement sur la chute de Satan. Satan était un ange brillant, mais inférieur à Dieu. Mais cet ange brillant n'a pas accepté son rang. N'a pas accepté son identité. Il voulait être au-dessus de Dieu, au-dessus du Créateur. Au lieu d'apprécier sa position, au lieu d'être reconnaissant de la position qu'il avait, il a négligé. On peut retrouver d'autres passages aussi, des fois on parle avec le roi de Tyr dans Ézéchiel. Mais la comparaison produit du mécontentement. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée. Je serai semblable au Très-Haut. Chez Satan, la comparaison l'a conduit à la chute, tout comme le roi de Babylone. Mais mes amis, Satan existait avant ce roi-là. La comparaison gouverne notre monde, parce que cet ange déchu en est le prince. Il sait que la comparaison va détruire. Vous savez, la vitalité même économique d'une société repose en partie sur la comparaison avec tous les vices que cela inclut. Moi, je n'ai pas ça, il me le faut. Des fois pour être le premier, pour montrer au monde qu'on est les meilleurs. La comparaison pousse à la société de consommation. iPhone 17, c'est mieux que mon iPhone 16 quand même. Même s'il fonctionne encore bien. Et ainsi de suite. La comparaison, le prince de ce monde qui a chuté avec cette notion de se comparer. Il a emmené d'autres gens avec lui. Beaucoup d'autres gens avec lui. Après la chute, place à la chute de l'homme, où on retrouve une expression commune, vous serez comme ou semblable. Et la chute en Éden parle de la comparaison. Prenons Genèse 3, 4 à 5. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme ou semblable à des dieux connaissant le bien et le mal. Le serpent contredit les paroles de Dieu utilisées en 2:17. Il dit, si vous allez mourir si vous écoutez pas, si vous obéissez pas, si vous faites pas ce que je vous dis. Il balaye, il enlève la sainte crainte de Dieu. C'est ça qu'il leur vend. Et il évoque ensuite, juste derrière, l'idée de comparaison. Vos yeux s'ouvriront, vous serez dotés de nouvelles facultés mentales, de la capacité de réflexion qui permet de prendre des décisions indépendamment de Dieu. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Ici, la comparaison a nourri la rébellion. Je me suis posé cette question, est-ce que Ève et Adam auraient pu se comparer à Dieu pour le bien ? Oui, Dieu est notre créateur. Il est supérieur à nous. Il est notre roi. Nous reconnaissons que nous sommes dépendants et soumis à lui pour notre bien. Une bonne comparaison là. Ils auraient pu devancer Jérémie qui a dit en chapitre 10, verset 6, « Nul n'est semblable à toi, ô Éternel, tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. » Ou ils auraient pu aussi devancer Ésaïe qui a dit au chapitre 46, « À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal ? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables ?» Je suis l'Éternel. Je suis au-dessus de tout. Est-ce que l'histoire de la comparaison s'est arrêtée là? Non. Je ne vais pas parler de Caïn et Abel maintenant, mais on en parlera peut-être un peu tout à l'heure quand je vais parler des frères de Joseph. Mais encore une histoire de comparaison. Une autre histoire dans la Bible qui nous enseigne ce sujet, même on va dire une histoire familiale de comparaison. Vous pensez à qui? Notre ami Jacob, avec son frère, avec ses femmes, avec ses fils. Une vraie histoire de comparaison. Et une famille qui a souffert. Beaucoup de souffrance à cause de la comparaison. On ne va pas lire toute l'histoire, hein, parce que ça prendrait quelques heures. Mais on va prendre quelques versets qui nous montrent les conséquences de la comparaison dès le plus jeune âge et à cause des parents. Genèse 25, 27 à 28. Ses enfants grandirent, Ésaïe devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Peut-être parce qu'il ne mangeait pas de gibier, je ne sais pas. Mais deux enfants bien différents, deux enfants bien différents. Mais le cœur des parents a fait une préférence parce qu'ils les ont comparés. On parle souvent du terme favoritisme, affinité. Moi, je préfère ça chez lui, donc je l'aime plus que l'autre. Ou en tout cas, je reconnais que j'aime plus cet enfant-là parce qu'il a plus d'affinité avec moi. Un côté un peu rustre, d'Ésaü, d'Ésaü, que Jacob aimait bien. La suite de l'histoire, vous la connaissez aussi, la bénédiction volée par Jacob à Ésaü. Parce que Rebecca aimait plus que Jacob. Alors on pourrait se poser la question, parce que vous savez que Jacob avait été choisi par Dieu pour avoir cette bénédiction-là. Mais est-ce que l'attitude de Rebecca justifie son péché parce que Dieu avait de toute façon choisi Jacob? Absolument pas. Il y a des conséquences à ce favoritisme. Il y a de la souffrance à ce favoritisme. Au verset 27-41 de Genèse, Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Ésaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai, c'est fort, hein, et je tuerai Jacob mon frère. » Cette comparaison, mes amis, elle a fait des dégâts. Elle a amené à une souffrance profonde. Quand un frère veut tuer son autre frère, c'est terrible d'en arriver là. Comparaison qui a commencé avec les parents. Dans sa grâce, Dieu a permis la réconciliation entre les deux frères. C'est une réalité. Mais des années de souffrance. Des années de souffrance. Est-ce que ça s'est arrêté là? Non. Ça a continué avec Rachel et Léa. Avec Rachel et Léa. Regardez le chapitre 30, verset 1. Genèse chapitre 30, verset 1. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur, comparaison, et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. On sait qui Jacob aimait. La comparaison, l'insatisfaction, la jalousie, tout est lié. Quand nous sommes insatisfaits, il est bon de réfléchir si on n'est pas en train de comparer. Quand vous commencez à avoir un cœur insatisfait, mécontent, il est bon de s'arrêter et de se dire, est-ce qu'il n'y a pas en moi quelque chose où je suis en train de comparer en fin de compte. Vous aurez aimé avoir cela, mais Dieu vous donne autre chose. Dans différents domaines de notre vie, on vient avec des attentes, voire des exigences, mais pas pour écouter ce que Dieu veut nous dire et donner, parce qu'on pense qu'on sait mieux ce dont nous avons besoin que Dieu. Et ça s'appelle une subtile comparaison de notre cœur, liée à l'orgueil, et rarement de repentance dans ce domaine. Donc ça perdure. Mais la comparaison est là, en fond, en fin de compte. J'ai aussi constaté dans mon ministère, par rapport à la comparaison, que l'être humain se compare sur la souffrance ou par rapport aux épreuves. Mon épreuve ou ma souffrance est plus grave ou importante que la tienne. Ma question, c'est qui sommes-nous pour évaluer notre épreuve à l'égard de l'autre ? Qui sommes-nous ? Nous quantifions ça. Dieu regarde autrement. Continuons avec les fils de Jacob. Prenons Genèse 37, on va lire un peu plus là. Genèse 37. Versets 3 à 24. Quand vous allez voir le mot Israël, il est question de Jacob. Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Vous voyez bien que la haine précède le songe qu'il va avoir derrière et qu'il va expliquer. Ils avaient la haine par rapport à cette comparaison qu'ils ressentaient, qu'ils voyaient. Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Mais la haine est déjà là. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe se leva et se tint debout et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu règneras sur nous ? Est-ce que tu nous gouverneras ? Ils le haïrent encore davantage. On ne le fait pas en français, mais c'est la pensée. À cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe. Il le raconta à ses frères. Il lui dit, j'ai eu encore un autre songe. Et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu ? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner devant toi ? Ses frères eurent l'envie encore contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, je vais m'arrêter là, ça va être l'histoire, vous la connaissez, par la suite, ils vont vouloir le tuer. Il y a un des frères qui va proposer autre chose et puis ils vont le vendre et il partira ensuite en Égypte. Mais ce songe venait de Dieu et ce songe amène aussi à une comparaison, c'est vrai. Comme avec Jacob et Ésaü, c'est Dieu qui décide du choix de Joseph qui sera élevé. Et il faut distinguer le favoritisme du choix souverain de Dieu. Dieu avait choisi et décidé que Joseph serait élevé pour le bien de sa famille plus tard. Mais cela n'excuse absolument pas et ne justifie absolument pas le choix de Jacob d'aimer plus Joseph. Et cela ne justifie pas non plus, parce que le père avait ce favoritisme et cette comparaison, de vouloir tuer leur frère. Ça ne justifie pas ça, même si dans le plan souverain de Dieu, Dieu avait décidé que Joseph serait élevé. L'attitude de ses frères n'était pas juste, mais il y avait beaucoup de souffrance. Il y avait de la souffrance chez ses frères de voir ça. Vous savez, il y a une parole, tout à l'heure je vous parlais de Caïn et Abel, il y a une parole que Dieu va dire à Caïn à un moment donné quand il est pareil, insatisfait, lié à la comparaison, de voir les deux offrandes, ça lui va pas, parce que le verdict de Dieu. Il lui dit à un moment donné, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. La suite est pertinente, très très intéressante pour nous. Mais toi, domine sur lui. La comparaison va venir frapper à votre cœur tous les jours. Toc, 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 toc. Dès que vous l'avez ouvert la porte, c'est parti. domine sur lui. Certains d'entre nous ont peut-être vécu ce que les frères de Joseph ont vécu à une échelle peut-être un peu moindre. Et ce qui naît de cela, des fois, c'est de l'amertume. Une profonde et silencieuse amertume dans notre cœur. Je n'ai pas autant d'enfants que Jacob. Hein? J'en ai quelques-uns quand même. Et en tant que parents, ils nous arrivent à comparer. C'est une réalité, hein? Oui. Ils sont tous partis, c'est vrai que je faisais le message sur la comparaison, il ne m'en reste plus qu'Anna. Mais notre but n'est pas faire du mal, parce qu'on aime nos enfants. On aime nos enfants. Et je pense que Jacob aimait aussi les autres. Mais dans certaines situations où on est dépassé, il arrive de comparer. Et les enfants peuvent ressentir qu'on aime un enfant plus que l'autre. Même si notre cœur de père ou de mère aime chacun de ses enfants, des fois notre façon de faire démontre qu'il y a un amour plus pour l'un que pour l'autre. Et en tant que parent, on ne le voit jamais. Mais vos enfants vont vous le dire. Vos enfants vont vous le faire remarquer. Et ne croyez jamais que vous êtes de meilleurs parents que vos propres parents. Mais il est vrai que certaines phrases comme « il faut que tu réussisses comme » Si tu étais comme ta sœur ou ton frère, alors, ça devrait être évité, ça. C'est pratique. C'est pas facile, hein? Mais c'est du concret. Je parle même pas de la fratrie à l'école qui ont eu les mêmes profs. Hein. Ça parle peut-être à certains. Si tu étais plus comme lui ou comme elle, vous voyez le truc? La comparaison, elle est partout. Regardons une des dernières histoires que je voulais voir ce matin dans l'Ancien Testament, qui nous prépara, je vous dis, à cette voie dans Philippiens 2, tout doucement. Voilà ce qui s'est passé entre David et Saül. 1 Samuel 18, versets 6 à 16. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 !» Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit « On en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000 !» Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül et qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant lui-même « Je frapperai David contre la paroi ». Mais David se détourna de lui deux fois. Saül craignit la présence de David parce que l'Éternel était avec David et il s'était retiré de lui. Il éloigna de sa personne, il établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. La comparaison dans ce passage met en lumière l'état du cœur, encore une fois. Alors ici, il est difficile de savoir si ces femmes font la comparaison entre David et Saül. Je vous explique pourquoi, parce qu'en français, on dirait ça de suite, mais dans la poésie hébraïque, d'augmenter un vers après l'autre, c'était quelque chose qui était possible, sans forcément avoir une idée de comparaison. Elles ne font pas un bilan net et précis de la guerre, hein, ici. Elles mentionnent David et Saül comme victorieux. L'un 10 000 et l'autre 1000. Mais ce n'est pas l'interprétation de Saül, ça. L'interprétation de Saül, c'est que Saül n'admet pas que David soit mentionné et qu'on lui attribue le chiffre 10 000 à David et que lui, c'est seulement 1000, comme s'il y avait plus de choses victorieuses que lui, alors que lui, il vient de battre le Philistin. Saül n'admet pas que David soit mentionné et qu'on lui attribue quelque chose de plus qu'à lui. Alors que Saül, il a tout. Il est encore roi. Mais c'est insupportable pour lui. De la colère, dit le texte, de la haine sont sortis de cette comparaison. Saül aurait dû se réjouir en fin de compte. L'antidote à la comparaison, c'est se réjouir. Il aurait dû se réjouir d'avoir eu des victoires sur l'ennemi, de se réjouir des capacités de David en fin de compte. Waouh, David a réussi aussi. J'ai fait que 1000, il a fait 10 000, mais c'est pour le royaume de Juda. On est libéré, on avance. Non. Non. Saül n'avait pas compris que David n'était pas son ennemi. Alors oui, il allait être son successeur, voulu par Dieu, le texte le dit. Et David ne portera jamais la main sur loin de l'Éternel en plus. Il avait un profond respect pour Saül. Mais ils étaient dans le même domaine tous les deux. Il arrive parfois que dans les mêmes domaines que nous, vie maritale, parentale, professionnelle, scolaire, sportive ou même ecclésiale, des personnes comme ces femmes disent des phrases qui amènent à faire une comparaison. Ça va arriver des fois. Et quel impact ces phrases de comparaison ont sur nous? Colère, haine, jalousie, murmure? Ou au contraire, reconnaissance, joie? Et si c'est des bons exemples à suivre, prendre comme modèle? Mes amis, il y aura toujours quelqu'un de plus compétent que moi. Toujours. Toujours quelqu'un de plus compétent que nous. Entre pasteurs même, on a des fois ces... Entre pasteurs différentes églises, la question qu'on se pose des fois le plus en tant que pasteur, qui est un peu stupide en plus, hein, il y a combien de personnes dans ton église? Même des fois entre chrétiens, il y a combien de personnes dans ton église? Et cette question peut être saine, mais la plupart du temps, c'est une envie de comparaison. Si j'en ai plus que l'autre, je me dis que mon ministère fonctionne bien, mais si j'en ai moins que l'autre, alors je l'envie. Mais c'est faux. C'est encore un faux raisonnement. La comparaison est un jeu sans fin, comme avec un chien qui ramène ça sans cesse la balle. Si la comparaison produit de la jalousie, des murmures ou de l'amertume, alors la comparaison sera une gangrène, une vraie gangrène dans notre vie. Et je vais aller plus loin, notre amour pour l'autre sera constamment superficiel, éphémère et conditionnel. Et on va devenir comme ces chrétiens dans Jacques chapitre 2. Ou même ces chrétiens qu'on va voir à Philippe la semaine prochaine et comment Paul va les exhorter à combattre ça. L'antidote à ça, c'est une des bénédictions en Christ, c'est d'être libre de ne pas vouloir se comparer aux autres, mais de vouloir se comparer à Christ afin de lui ressembler, qui n'a pas regardé le Père égal. Et si on est amené à se comparer, revenir à se dire, en fin de compte, je suis satisfait en Christ. Je suis satisfait en Christ. Et si vous devez vous comparer à une autre personne, est-ce que le but est de ressembler à Christ? C'est ce que Paul a dit quand il parle d'être ses imitateurs. Comme moi, je le suis de qui? De Christ. Donc si on doit même se comparer à quelqu'un, c'est, est-ce que c'est un modèle à suivre? Qui aime Christ, qui veut servir le Christ? Je ne sais pas si ce matin vous êtes conscient, pour ceux qui sont chrétiens, Dieu n'a pas fait de nous des nouvelles créatures pour qu'on vive dans la comparaison. Mais qu'on apprécie tout ce que nous avons en Jésus-Christ. Un verset que j'aime beaucoup et qui développe toutes les bénédictions par la suite de ce que nous avons, c'est dans Éphésiens chapitre 1. C'est vraiment le grand titre, hein, parce que si vous voulez connaître toutes les bénédictions, elles suivent. Et c'est une seule phrase en plus. Du verset 4 au verset 14 ou 15, je ne sais plus trop. C'est une seule phrase, en fin de compte, qui montre toutes les bénédictions qu'on a, et notamment notre salut. Mais il dit, béni soit le Dieu, le Père de notre Jésus-Christ, qui nous a bénis. C'est déjà fait. C'est déjà fait. De toutes sortes de bénédictions spirituelles, qui sont dans les lieux les plus certains, les plus sécurs, les lieux célestes, en Christ. Vivre dans la comparaison, ça détruit, c'est une gangrène. C'est dire à Dieu qu'on n'est pas satisfait en lui. Mais ça, dans la réalité, aucun de nous va dire à Dieu ou n'a jamais dit à Dieu, même dans ses prières, « Je ne suis pas satisfait de toi. » Parce qu'on n'est pas assez honnête pour dire ça à Dieu. Qui a déjà prié concrètement, « Seigneur, je ne suis pas satisfait de toi. » On n'ose pas dire ça. Mais la comparaison et nos comportements reflètent parfois « On n'est pas satisfait de toi. » Tu ne réponds pas à ce que mes attentes, tu ne réponds pas à mes exigences. Quand je suis tenté par la comparaison, il est bien de se rappeler deux petits mots, que Jésus a dit à Pierre, « Suis-moi. Fixe tes regards sur moi. » Ces deux mots sont puissants et suffisants. Vous savez à quel moment il dit ça? C'est à la fin, dans Jean chapitre 21, versets 21 à 23. En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? » Il parle de Jean. Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. « Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » Ce « suis-moi » implique que Pierre, il te manque rien. Suis-moi. Et je crois qu'on a besoin, dans ces moments où la comparaison peut arriver, de tourner nos regards vers Christ. Florent Tatou, suis-moi. Suis-moi. Quand vous commencez à voir qu'il y a de l'insatisfaction en vous, du mécontentement, regardez s'il n'y a pas quelque chose en amont, qu'il y a de la comparaison. Parce que ça n'a pas répondu. Vous savez, ça, Dieu n'a pas répondu à vos exigences, à vos attentes. On va prendre un temps pour prier. Que le Seigneur nous fasse grâce. Quand Paul disait la semaine dernière, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. C'est ça notre référentiel.